Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier du rendez-vous jeu, un petit peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le retour des vacances. Il y a eu quelques épisodes bonus spéciaux pendant les vacances, mais là, c'est le vrai épisode qui recommence, la vraie série qui recommence, mais pas vraiment en même temps parce que je suis tout seul pour cet épisode-ci, que c'est un épisode qui est entre deux épisodes normaux, enfin c'est pas la date normale, et je suis en vadrouille et je me suis dit que avant de reprendre vraiment la semaine prochaine, les épisodes normaux, je ferai bien un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l'été, parce qu'il s'est passé énormément de choses, et il y a plein de choses que j'aimerais commenter. On n'aura pas le temps de le faire forcément la semaine prochaine, avec les news de la Gamescom qui arrivent et des choses qui se rajoutent encore. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit moment en dehors de l'emploi du temps normal pour vous parler de tout ça. Et je me suis dit également que j'allais vous teaser, faire comme dans le monde du jeu vidéo, et teaser une annonce, annoncer une annonce. Donc écoutez l'épisode de la semaine prochaine, parce qu'il y aura une annonce assez intéressante pour le rendez-vous jeu. Donc les patriotes, les gens qui soutiennent l'émission le savent déjà, mais je l'annoncerai à tout le monde la semaine prochaine, ça va être, j'espère, un truc qui va vous plaire. Mais entre-temps, on va parler de tout ce qui s'est passé cet été, à moitié dans l'ordre plus ou moins chronologique, mais pas vraiment, on va regrouper par thème quand même. Et avant ça, je vais bien sûr remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, les Patriotes, et je vais remercier spécifiquement Mainvis, Taorem, Snowdown, Romain Ducroux, Kevin Galibert, ou Jalibert, Jérôme, Gecko Splinter, Sébastien Avis, Jojo Lalicorne et Celsius. Merci à vous tous de soutenir l'émission et de me permettre de faire ce métier que j'adore. Si vous appréciez l'émission, j'espère que vous considérerez l'idée de rejoindre les Patriotes et d'avoir tous les bonus super cool qui sont disponibles à tous ces gens-là. Donc, comme vous le savez, je suis en vadrouille, donc j'ai un micro différent et j'ai un programme un petit peu différent dans mes journées, mais on trouve quand même le temps de faire un épisode du rendez-vous jeu, parce que oui, il y a énormément de choses qui se sont passées, et je vais commencer par évidemment les plus grosses annonces de cet été sur la plus grosse plateforme de jeux vidéo actuellement disponible. Je parle évidemment de Google Stadia. C'est pas très drôle, mais ça fait quand même toujours plaisir. Il y a eu un Stadia, comment ils les appellent ? Stadia Direct, Stadia quelque chose. Peu importe, ça n'a pas vraiment changé énormément de choses. Il y a quelques trucs plus ou moins marrants comme Bomberman Battle Royale qui arrive sur Stadia. Et Sekiro, qui arrive sur Stadia aussi, alors ça fait au moins un bon jeu de plus, il y en a quelques-uns en plus, mais je vais beaucoup m'arrêter pour boire, parce qu'il fait très chaud ici et j'ai déjà la gorge sèche. Mais il y a quand même une annonce ou deux qui sont intéressantes, c'est qu'il y a des développeurs qui sont en train de développer des jeux pour Stadia et de manière exclusive. Donc, il y aura des jeux exclusifs de différents studios, c'est-à-dire les studios en question, Harmonix, Supermassive et Uppercut Game, qui rejoignent d'autres studios internes Stadia, de Google. Et certains de ces jeux sont plus ou moins connus. Harmonix, c'est Rockman et Guitar Hero. Supermassive Games, c'est Until Dawn et Man of Medan, des jeux d'horreur. Alors Uppercut, je vous avoue que je ne les connais pas vraiment, c'est Submerge and City of Brass. Mais c'est intéressant que Stadia se rende compte enfin qu'il faut des jeux exclusifs sur sa plateforme s'il va falloir si les gens vont s'y intéresser. Et donc, ils mettent leur argent à ce but. Le truc, c'est que bien sûr, tous ces jeux-là, ils vont arriver pas tout de suite. Il faut au moins, allez, au minimum 2-3 ans pour faire un jeu. Donc, c'est pas tout de suite que Stadia va devenir plus intéressant. Bon, ok, ça, c'est réglé. Sur les autres grands constructeurs, Microsoft et Sony, il s'est passé beaucoup de choses. La chose qui ne s'est pas passée, c'est qu'on n'a toujours pas les dates ou les prix des consoles next-gen. Il y a des rumeurs selon lesquelles la date de la sortie de la série X serait annoncée avec l'existence de la série S dans les jours qui viennent, peut-être même demain, et que la date serait le 6 novembre, ce qui serait logique. Mais on va en reparler juste dans un moment. En attendant, on va commencer par le début, c'est-à-dire le moment où ils ont montré enfin un petit peu plus de Halo Infinite, ce qui n'a pas été super bien, puisque Halo Infinite ressemblait pas à quelque chose qu'on attendait pour un jeu flagship de la série X. Hein. C'était même graphiquement hyper décevant. Et s'il est vrai que les screenshots qu'ils ont choisis pour le marketing mettaient vraiment pas le jeu en valeur, et qu'il était beaucoup plus beau quand on regardait ça en 4K ou au moins en mouvement avec les vidéos téléchargées plus tard sans la compression de YouTube. Ok, c'était quand même pas un jeu qui ressemblait à un porte-étendard de la nouvelle génération. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est pour cette raison ou pour une autre, mais le jeu a été décalé à 2021 sans plus de précision, ce qui fait qu'il va rater la sortie de la Xbox Series X, ce qui est pour moi la plus grosse nouvelle de l'été pour Microsoft, parce que du coup, la Series X, il lui reste pas grand chose, et j'aurais même tendance qu'il reste rien de suffisamment convaincant pour se dire qu'on va l'acheter à la sortie. Sans Halo, qui est le system seller, le killer game de la console, oui, il y a des trucs cool, mais pas suffisamment pour convaincre d'acheter la console. Et surtout, les jeux sont disponibles sur toutes les machines de toute façon. À la limite, Halo, si on est un grand fan de Halo, on va se dire « je vais acheter la nouvelle console pour y jouer dans les meilleures conditions ». Mais c'est les autres jeux, on va pas forcément acheter une console pour. Donc, en gros, on rentre déjà dans le vif du sujet, et à mon avis, ce décalage de Halo veut dire que, au jeu du plus grand nombre de consoles vendues, Microsoft s'est tiré une balle dans le pied, et s'est même tiré une balle dans la tête, quoi. On est à peu près certain que c'est pas eux qui vont gagner à ce petit jeu-là, parce qu'il y a tout simplement plus vraiment de raison d'acheter une Xbox One, une Xbox Series X. Et d'ailleurs, ils ont anticipé l'analyse, puisque Phil Spencer a dit après ça, disons, a précisé un truc qu'il dit depuis longtemps, c'est que eux, leur but n'est pas de vendre des consoles, le plus de consoles possible. Et bon, à ce jeu-là, tant mieux, parce que clairement, ils ne vont pas y arriver. Mais c'est évidemment intéressant dans le contexte du Game Pass, qui a été beaucoup plus que Halo, la star de cette présentation du mois dernier, où tous les jeux étaient des jeux... Alors, comment dire ? La manière dont je l'explique, c'est que les jeux que nous présente aujourd'hui Microsoft... Et même Halo dans une certaine mesure, mais tous les jeux qu'ils nous présentent, c'est des jeux qui, si on devait les payer plein pot, seraient pas forcément les jeux les plus intéressants de la Terre. C'est des jeux qui sont peut-être sympas, mais si on doit payer 60 ou 70 euros pour, on va se dire non, c'est pas un jeu pour moi et il m'intéresse moins. Alors que dans le contexte du Game Pass, et tous les jeux qu'ils ont présentés étaient inclus dans le Game Pass, dans le contexte du Game Pass, tout à coup, on voit ces jeux d'une manière complètement différente. Parce que ce n'est pas des jeux qu'on va acheter, c'est des jeux qu'on a déjà si on est abonné au Game Pass. Et franchement, je pense que si vous êtes un core gamer assidu, s'abonner au Game Pass, c'est presque... même pas besoin de réfléchir, c'est un deal tellement incroyable... Si on est uniquement sur PC peut-être, mais surtout si on a une console Xbox déjà, c'est un deal tellement incroyable que forcément on va s'abonner au Game Pass. C'est comme, presque comme Amazon Prime, s'il y a plus de raisons, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas y être abonné, en fait. C'est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo, ce Game Pass. Il y a tellement de jeux et tellement de jeux intéressants que y a une énorme partie des joueurs assidus, des core gamers, qui vont être abonnés. Et donc, dans ce contexte, si on est déjà abonné, bah, tous ces jeux qu'on va avoir, ils sont beaucoup plus attrayants. Il y a énormément de jeux, Halo, bien sûr, mais je regarde la liste des jeux qui ont été montrés, des jeux dont on se dirait « Bah ouais, je vais l'essayer, c'est cool, j'ai envie de l'essayer si c'est inclus dans un abonnement que j'ai déjà. » Et pour le coup, ça le rend vraiment attrayant. Si on doit le payer, on s'en fout peut-être un peu, mais si on l'a déjà, eh ben on se dit « Ouais, ok, banco, moi le jeu tout à coup m'intéresse. » State of Decay 3, évidemment, Forza, enfin évidemment, oui, c'est intéressant. Alors c'était un trailer qui était sans doute précalculé, c'était pas en jeu. Mais bon, ok, c'est quand même un truc qu'on pourrait essayer. Forza, ils l'ont montré, c'est toujours, il y a un jeu de voiture à la sortie des consoles. Ok, ça c'est pas forcément mon truc, mais il y a plein d'autres jeux comme Everwild, dont on sait toujours pas ce que c'est, mais qui là pour le coup est tellement beau que oui, ça nous intéresse forcément. Ori sera optimisé, bon ça ok, Ori and the Will of the Wisps sera optimisé. Il y a des jeux hyper intéressants qui n'exploitent pas forcément de la console, mais As Dusk Falls, qui est un drame dans les États-Unis avec une histoire de hold-up qui tourne mal et puis de génération qui a l'air hyper intéressant. Fable, qui a été annoncé, bon celui-là on va pas le voir avant quoi, 2-3 ans, il y avait juste un trailer et voilà. Tetris Effect Connected, également inclus dans le Game Pass si on a bien compris. Warhammer 40 000, Darktide, intéressant aussi. Avowed, une sorte de Skyrim de Obsidian, si je ne me trompe pas. Décidément, il pourchasse Bethesda, pourquoi pas. Destiny 2, Beyond Light, l'extension, et Destiny 2 qui vont être inclus dans le Game Pass aussi. Enfin, bref, j'arrête. Oui, Phantasy Star Online 2, New Genesis, qui est un petit peu Phantasy Star Online 3, en fait, plus ou moins. Mais... The Medium également, qui est un des jeux qui exploite la capacité du SSD pour vous passer d'un monde à un autre de manière immédiate. C'est un petit peu à la Silent Hill, vous savez, le monde rouillé, le monde normal, mais on peut y passer de l'un à l'autre sans temps de chargement. Bref, tout ça, ça veut dire que... Bah, oui, ça, c'est hyper intéressant d'être abonné au Game Pass, et du coup... Pour Microsoft, qu'on achète une console ou pas, je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, bah écoutez, on s'en fout un petit peu, quoi. Eux, ils s'en foutent de vous vendre des consoles tant que vous êtes abonné à leur service, vous jouez où vous voulez. Et vous jouez d'autant plus où vous voulez que l'annonce de l'inclusion du xCloud au Game Pass Ultimate, donc la version la plus chère, a été confirmée. Donc, bon, on ne pourra pas jouer au jeu xCloud enfin, en streaming sur les appareils Apple, a priori, ce qui est quand même bien, bien frustrant. mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est bien frustrant. Mais on pourra aussi jouer sur téléphone Android, on pourra jouer à terme sur PC en streaming. Et comme je le dis depuis longtemps... L'idée du streaming, c'est pas de remplacer votre console. Il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu, disons, pas séduits par le streaming, ou qui étaient même anti-streaming parce qu'ils pensaient que l'idée était de remplacer la console. Mais non, avec tous ces jeux Game Pass, le streaming va complètement s'inclure dans votre écosystème de jeux, peut-être pour essayer des jeux. C'est pas que vous allez tout le temps jouer en streaming, mais... Installer Flight Simulator, par exemple, qui est déjà sorti, là. Hein. Mais installer... Bon, sans parler de Flight Simulator, mais il y a tous les jeux que j'ai évoqués à l'instant. Peut-être que vous ne voudrez pas installer et désinstaller tous ces jeux-là juste pour les essayer 20 minutes ou une demi-heure ou une heure. Eh bien, le streaming, c'est parfait pour ça, si vous avez la collection. Donc, peut-être même commencer à jouer à un jeu pendant que vous êtes en train de l'installer ou pendant qu'il s'installe dans la nuit. Moi, je pense que le streaming, dans ce contexte, va évidemment faire partie de nos habitudes de jeu. Et étant donné qu'il est confirmé qu'il est intégré à l'abonnement Ultimate, s'il fallait payer en plus pour... bon, peut-être que ça ne serait pas forcément tout le monde qui s'y intéresserait. Mais là, déjà inclus dans le truc, mais oui, bien sûr, donne-moi tout de suite une raison de plus, comme avec Amazon Prime, de ne jamais se désabonner. Donc, franchement, malgré le retard de Halo, le retard de Halo Infinite, et le fait que, bah oui, clairement, moi je crois qu'ils ne vont pas vendre beaucoup de consoles Xbox Series X ou Xbox Series S à cette période de l'année, enfin à la rentrée, à la période des vacances, bah c'est pas grave pour Microsoft parce que c'est pas leur but. Mais par contre, clairement, ça laisse un boulevard à Sony avec ses grosses exclus, ou en tout cas avec Spider-Man, Miles Morales. Ça laisse un boulevard et je pense qu'ils vont en vendre évidemment beaucoup plus que s'il y avait une concurrence sérieuse de Microsoft. Donc ça, c'est un élément évidemment à prendre en compte. D'autres choses à noter quand même, on a eu un leak de la manette, enfin un leak, quelqu'un a réussi à acheter une manette Xbox Series X et S, donc confirmation du nom de la Xbox Series S, par une manette qui a été vendue par un site, bon, un petit peu bizarre, mais il y a plusieurs personnes qui en ont eu, donc ça a l'air d'être effectivement réel. Et ils ont confirmé accessoirement que oui, la série X, et du coup sans doute la série S, sera lancée vraiment en novembre, comme prévu. Donc le retard de Halo n'affecte pas la sortie de la console. Et puis à noter aussi que s'ils vont arrêter de vendre les Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition, ils vont continuer à vendre la Xbox One S. Et je pense qu'ils vont la faire passer à un prix vraiment intéressant. On peut imaginer 200 ou 150 euros. Et du coup, avec un abonnement Game Pass, ça fait un truc hyper intéressant. Et en plus de ça, ils vont amener le Xbox, comment ça s'appelle, All Access, Xbox All Access, qui est en fait la vente de la console et du Game Pass en abonnement mensuel. C'est-à-dire que vous achetez peut-être, enfin vous choisissez la console que vous voulez, une Xbox One S, une Xbox Series S ou une Xbox Series X et le Game Pass, et vous payez ça simplement par mois au lieu de devoir payer toute la console dès le départ. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir sans doute payer, je ne sais pas, 15-20 euros, peut-être 20 euros pour une Xbox One S. Et puis, ça montera jusqu'à, qui sait, 35-40 euros pour une Xbox Series X, ou peut-être même plus, mais vous paierez ça par mois. Et là, évidemment, c'est une entrée dans ce domaine avec les abonnements, l'abonnement au Game Pass qui vous donne accès à tellement de choses. Je pense que ça risque d'en séduire un certain nombre de joueurs. Quelques petits trucs en plus du côté de Microsoft pour dire que Sea of Thieves a dépassé les 15 millions de joueurs par mois, le plus gros mois de l'histoire de Sea of Thieves avec la sortie Steam, bien sûr. GTA 5 s'est encore plus vendu sur l'Epic Game Store après avoir été gratuit sur l'Epic Game Store. Grounded est également un jeu qui se vend excessivement bien sur Steam, donc qui se vend alors qu'il est disponible sur le Game Pass. Donc ça confirme encore une fois le fait que le Game Pass est très bon pour les jeux parce que ça lui donne de la visibilité et ils se vendent mieux ailleurs. Je parle de la gratuité sur l'Epic Game Store parce que c'est un petit peu le même principe, c'est gratuit sur une plateforme et ça provoque des ventes ailleurs. Un petit bémol sur Flight Simulator qui est sorti et qui a eu des reviews incroyables, donc bravo à Sobo Studio, c'est bien à Sobo, hein, je ne dis pas de bêtises, qui sera disponible en VR cet automne, donc en VR sur PC hein, bien sûr, mais il est tellement gros à télécharger, il fait 150 gigas. Rendez-vous compte, 150 gigas. Mais les 150 gigas, la plupart, se téléchargent quand vous avez lancé le jeu. Je parle de la version Steam, là, parce qu'il est également disponible sur Steam. Et donc, les gens qui ne veulent pas télécharger 150 gigas, eh ben, en fait, pour se faire rembourser sur Steam, c'est complexe, hein, j'explique. Pour se faire rembourser sur Steam, il faut pas avoir joué pendant plus de 2 heures. Sauf que là, le jeu lancé est considéré comme avoir été joué. Et si les téléchargements prennent tellement longtemps, au bout de 4 heures, vous dites « non mais c'est bon, ça suffit », et que vous voulez vous faire rembourser, eh ben, le jeu est considéré comme ayant été lancé et pendant plus de 2 heures, donc vous pouvez plus vous faire rembourser. Bon, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution avec Microsoft, mais c'est marrant de noter ça. On va passer à Sony pour conclure cette première partie. Et donc, Sony a montré son State of Play le 6 août, donc il y a quelques semaines de ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce State of Play ? Bon, il y avait des trucs relativement cool, mais là encore, rien de complètement incroyable. Hitman en réalité virtuelle. The Pathless, qui avait l'air relativement intéressant. Quoi d'autre ? Vous savez quoi ? Il n'était pas forcément ultra foufou, ce State of Play. Le truc que j'ai retenu, moi, c'était Godfall, le jeu de lancement de la exclusif sur console, sur PS5, qui est le... Difficile de tenir la route, là. Parler non-stop. Qui est un looter slasher qui est assez intriguant pour moi. Je sais que, généralement, les jeux de lancement sont pas super profonds. Et au-delà de l'aspect performance graphique, ils ont souvent pas grand-chose à donner de plus. Mais là, je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à tester. Ça a l'air d'être relativement beau. Et puis, le mélange entre Destiny, un petit peu de Dark Souls, un petit peu de Devil May Cry, toutes ces choses-là, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas ? Moi, en tout cas, je suis intrigué. Il y a Crash Bandicoot 4, qui, moi, n'est pas forcément un truc qui me parle personnellement, mais qui a l'air relativement bien foutu, fidèle à l'héritage d'origine. Et puis, des niveaux remixés qui sont vraiment intéressants, où visuellement, ils sont modifiés, mais également sur leur gameplay, et qui peuvent être remixés un petit peu comme un morceau de musique remixé par d'autres créateurs. C'est une idée qui est hyper intéressante, que j'ai jamais vraiment vue comme ça. Il y a des niveaux remixés par-ci, par-là, mais là, c'est de manière... vraiment, on pense à un remix comme un morceau de musique. Donc, c'est une tendance qui, à mon avis, pourrait... qui n'est pas encore une tendance, mais qui pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres jeux. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Hitman 3 en PlayStation VR, donc en VR, c'est perturbant de se dire qu'on va jouer à Hitman et assassiner des gens en réalité virtuelle, mais pourquoi pas. Braid Remake, le jeu de 2008 de Jonathan Blow qui sortira en 2021. Quoi d'autre ? Spelunky 2, qui c'est pas uniquement sur PlayStation, donc on va pas en parler plus longtemps. Mais bon, voilà, Aeon Must Die qui avait l'air hyper intéressant, mais qui, à la suite de sa présentation, a donné lieu à une controverse assez salée sur les conditions du développement et puis surtout la manière dont le développeur a volé le travail des gens qui travaillaient pour lui. Avec Focus Interactive qui publie le truc, qui a essayé un petit peu se dédouaner de la controverse, que je peux comprendre, quoi. C'est eux, ils savaient pas forcément comment le jeu avait été développé, mais évidemment, ils vont s'y intéresser. Donc ça, c'était un truc qui a fait mal pendant un petit peu après la présentation. Bugsnax, qui est sur PS4 et PS5 en fin d'année. La présentation, j'ai pas forcément eu l'impression de voir un truc complètement fou, hein, mais bon, il y a des gens qui seront peut-être intéressés par ce jeu-là. Donc bon, là encore, un petit peu comme on peut l'avoir vu ailleurs, le gros morceau de la PlayStation 5, c'est forcément le Spider-Man qui va arriver au moment de la sortie et qui sera le système seller. Quoi d'autre? Et Godfall, oui, je le mentionne encore une fois, Godfall, exclusif PS5 console, qui pourrait attirer, donner des trucs à manger aux gens qui voudront des trucs à manger sur les nouvelles consoles au moment de sa sortie, quoi. Toujours du côté de Sony, on a l'annonce que Ghost of Tsushima a été le plus gros lancement d'une nouvelle licence PlayStation, et pourtant il y avait du lourd derrière, mais plus gros lancement d'une licence PlayStation, donc gros succès pour Ghost of Tsushima. Et on a appris il y a quelques jours à peine que le jeu allait avoir une composante multijoueur coopérative, si je ne me trompe pas, c'est coopératif, un peu plus tard dans l'année. Donc, tant qu'on parle de Ghost of Tsushima, belle surprise de Sucker Punch. Oui, c'est Sucker Punch, qui nous donne un mode multi qui n'avait même pas été annoncé, même pas promis, juste comme ça, qui sera disponible dans quelques jours. Donc, plutôt cool. Un truc un petit peu moins cool, c'est les performances techniques de Spider-Man Miles Morales, qui sera jouable, selon eux, en 4K 60 FPS sur PS5. Vous vous dites, ok, super, c'est très bien. Sauf qu'il sera jouable en 4K 60 FPS en mode performance. C'est-à-dire qu'on va avoir un mode performance, même sur PS5, pour les jeux. Pour avoir les 4K 60 FPS, eh ben, il faudra choisir le mode performance, qui sera sans doute, je sais pas, un petit peu moins de ray tracing, un petit peu moins de ce genre de choses. Alors peut-être qu'à terme, les jeux seront optimisés pour pouvoir l'avoir, quoi qu'il arrive. Dur, dur de parler non-stop. Essayez, vous vous moquez, mais essayez, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Et donc, c'est un truc que les gens qui attendent le 60 FPS sans problème, ces gens-là risquent d'être déçus, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le 4K 60 FPS, enfin la 4K, ça demande une puissance de calcul totalement folle, que même les nouvelles consoles seront pas forcément capables de produire pour les jeux les plus éclatants visuellement en 60 FPS de manière native. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du 4K 60 FPS, mais c'est juste en mode performance. Après, si vous voulez du 4K 30 ou 1080-60, ou peut-être même 1080-120, ça sera beaucoup plus facile. Ça sera certainement, ça existera sans doute.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et puis, ça me permet de parler de Marvel's Avengers, mais il y aura Spider-Man, puisqu'on parle de lui, qui sera exclusif à la console, à la plateforme PlayStation dans le jeu Marvel's Avengers. Il arrivera en 2021. Et Marvel's Avengers, on a eu une bêta. D'ailleurs, il y a encore des bêtas en cours là. Elle sera ouverte ce week-end, si vous écoutez l'épisode à temps. Elle sera ouverte à tout le monde sur PlayStation, si je ne m'abuse, et puis la semaine d'après, à tout le monde sur Xbox et PC. Mais moi, j'ai joué à la bêta parce que j'ai précommandé le jeu. Et franchement, juste pour vous dire en quelques mots mon ressenti sur le jeu, c'est un jeu qui a énormément de problèmes structurels et autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les problèmes qu'il a, mais clairement, il a beaucoup de problèmes. Et je suis sûr que vous pourrez lire et voir des gens qui détaillent tous les problèmes en long, en large et en travers. Mais moi, je vais me concentrer sur le positif. Parce que j'ai pris énormément de plaisir à jouer à Marvel's Avengers. Alors, c'est une bêta. Il y avait une quinzaine d'heures de jeu, on va dire, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai trouvé que tous les problèmes dont on peut parler sont réels, mais il y a le cœur, le corps du jeu, le corps du jeu, qui est sain, et ça, c'est le gameplay. J'ai adoré jouer Iron Man ou Miss Marvel ou Hulk, et ils ont tous un gameplay qui est comparable dans les grandes lignes, mais quand on plonge dans le cœur du truc, c'est très spécifique. Peut-être pas aussi différent que, je sais pas, différentes classes de Diablo, par exemple, mais quand même... Ah oui, c'est à Diablo que je pensais quand je voulais décrire Godfall. Il y a un petit peu de Diablo là-dedans aussi. Mais donc, qui est pas aussi des classes aussi différentes qu'un Diablo, par exemple, mais qui sont quand même assez différentes quand on joue... pas Spider-Man, mais Iron Man, on joue pas du tout comme on joue Miss Marvel ou comme on joue Hulk, et il y a des arbres de talent qui nous permettent de changer un petit peu ou d'améliorer la manière, d'approfondir la manière dont on les joue, et ça rend quelque chose de vraiment satisfaisant quand on est un fan de Marvel, quand on veut on veut le fantasme de jouer Iron Man, Iron Man qui s'envole dans les airs, qui a son laser iconique des films, pour vous donner juste un exemple, Iron Man, bah, il peut voler, les autres peuvent pas voler, donc rien que ça, ça change pas mal, donc il peut voler, et puis il a des combats au corps à corps, bien sûr, des combos qui sont un petit peu, je dirais, Devil May Cry-esque, dans ce cas aussi, des combos qui sont relativement, allez, pas super compliqués. On a un bouton attaque légère, attaque puissante, et un bouton et roulade, allez, on va dire ça comme ça, et puis un bouton pour sauter. Mais donc on peut faire des attaques avec ces combos, et puis on a en plus de ça une sorte de coup spécial qu'on peut utiliser avec l'attaque puissante, et ça, à la base, c'est les répulseurs. Vous savez, le truc fait... c'est le seul moyen que j'ai pour le décrire. Et ça, c'est déjà suffisamment profond parce qu'il y a plein de combos, on peut faire des juggles, des machins comme ça. Mais après, quand on plonge dans l'arbre de talent, eh ben, on peut avoir à la place des répulseurs le fameux petit laser qui, lui, va pouvoir être concentré, et plus il est sur une cible longtemps, plus il va faire de dégâts. Et en plus de ça, on a également les missiles qu'on va pouvoir également sélectionner, et on les sélectionne avec en passant de l'un à l'autre avec la croix directionnelle, et ça change encore un petit peu le gameplay. Donc vous mettez ça avec les combos, le fait qu'on puisse voler, l'alternance entre les différents types de coups qu'on peut utiliser, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Hulk, il peut faire plein de choses différentes, évidemment. Je vais vous parler d'un truc qu'il peut faire. Il peut attraper les ennemis. Si on laisse appuyer longtemps sur le coup léger, eh ben, au lieu de juste le taper, il va l'attraper et il va taper les autres ennemis avec cet ennemi-là. Et puis, on peut, à terme, en plongeant dans l'arbre de talent, attraper deux ennemis, un dans chaque main, et taper avec les ennemis, et puis les taper les uns contre les autres, et les écraser sur le sol. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, vraiment, là, je gratte à peine à la surface du truc. Et en plus de ça, l'arbre de talent, on en avait un seul qui était disponible dans la démo, mais chaque personnage en aura trois. Trois arbres de talent complets. Et chaque arbre qu'on avait, c'était en fait quatre catégories. Donc, multiplier ça par trois... Il y a l'air d'y avoir vraiment une profondeur de gameplay qui est pas négligeable du tout. Alors encore une fois, hein, moi je suis un grand fan de Marvel, et pour être clair, il y a d'énormes problèmes dans le jeu qui me font dire que si vous n'êtes pas fan de Marvel, le jeu, c'est juste pas pour vous. Vous n'allez pas avoir quoi que ce soit de satisfaisant dans ce jeu-là, donc passez votre chemin. Mais si vous êtes fan de super-héros et de Marvel, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, et le fantasme de jouer les différents héros est complètement réalisé, et j'ai très très hâte, moi, de voir, d'une part, tous les héros qui sont déjà disponibles dans le jeu, parce que dans la démo, dans la bêta, on ne pouvait pas vraiment jouer, à part dans l'intro très succinctement, Thor et Captain America, qui avaient l'air très très cool eux aussi, et puis il y aura des persos qui seront ajoutés à terme, qui viendront ajouter encore au truc. Pour revenir sur la question de Spider-Man et de la controverse du fait qu'il soit uniquement disponible sur PlayStation et pas sur les autres plateformes, les contenus les contenus exclusifs, ça a toujours été un outil marketing. C'est normal d'avoir des contenus exclusifs. Et généralement, bon, quand c'est une skin, un niveau, un donjon, c'est pas la fin du monde. Sur Spider-Man, je comprends que ça fasse plus grincer dedans. Le problème, en fait, c'est que ce jeu, il est entièrement basé sur la fanitude de Marvel. Entièrement basé sur la fanitude de Marvel. Et Spider-Man, c'est une énorme partie de l'attrait de l'univers Marvel. Donc forcément, si on est fan de Marvel et qu'on ne peut pas l'avoir parce qu'on est sur Xbox ou sur PC, c'est hyper frustrant. Mais je comprends, je comprends. En même temps, ça veut dire que c'est bien joué de la part de Sony au niveau marketing, parce que ça veut dire que la version PlayStation du jeu est automatiquement la supérieure version de Marvel's Avengers. Là, il n'y a pas vraiment de débat possible. Si vous voulez y jouer autant que possible, bah, faut plutôt y jouer sur PlayStation. Donc, si vous avez une PlayStation, si vous avez les différentes consoles, bah, c'est sur PlayStation qu'il faut l'acheter, quoi. Donc, c'est bien joué. Moi, personnellement, j'ai une PlayStation, donc je m'en fous un peu, je sais pas, bien joué Sony. Bon, mais je comprends que ça fasse, que ça soit frustrant. Hein. Clairement, c'est plus frustrant que pour d'autres opérations d'exclusivité de ce type. Donc voilà, c'était une sorte de review de jeu ou de bêta après l'ensemble des résumés. On a d'autres choses dont on doit parler encore. Avant ça, je voudrais juste vous dire un petit mot. Sur le fait que, bien sûr, vous pouvez soutenir sur Patreon, hein, n'hésitez pas si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvjeux. Mais surtout pour vous dire que je vais annoncer, comme je le disais la semaine prochaine, des nouveautés. Et puis, début septembre, il va y avoir également d'autres choses qui vont arriver. Et donc, je vais pas en parler plus, mais il y a plein de choses qui vont arriver pour le rendez-vous jeu en particulier, pour le Patreon, pour la communauté dans son ensemble. Et j'ai très très hâte de vous en parler. Je ne veux pas trop en parler maintenant, mais la semaine prochaine, tout sera « all will be clear ». Mais donc, écoutez l'épisode de la semaine prochaine. Et abonnez-vous sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission. Oui, d'ailleurs, justement, je parle aux patriotes ici. J'ai fait un édito que vous avez peut-être raté pour vous expliquer tous ces détails. Donc vous savez déjà tout ce qui va se passer. Si vous l'avez raté, vous pouvez retourner sur Patreon ou dans le flux du podcast privé et vous pouvez aller écouter cet édito qui fait, je ne sais plus, 20-25 minutes, il est assez long, mais je vous explique tout ça et tout ce qui va se passer. Donc voilà, si vous êtes patriote et que vous l'avez raté, c'est disponible pour vous, le dernier édito en date. Alors après cette pause, on arrive au dernier gros morceau qui a eu lieu juste ces derniers jours. C'est le combat qui s'ouvre entre Apple et Epic. Et c'est vraiment, vraiment un gros morceau, donc je dois prendre un petit peu d'eau pour vous expliquer tout ça. Oh là là, mais par où commencer ? Alors, vous savez qu'Epic et Tim Sweeney, son président, se bat depuis longtemps pour avoir des systèmes plus ouverts et plus accessible aux développeurs, ce qui arrange leurs affaires à eux. Mais on sait évidemment que sur l'App Store et même sur le Play Store d'Android, toutes les ventes sont ponctionnées de 30%, une commission de 30% pour le propriétaire de ces stores, donc Apple ou Google. Et évidemment, Epic n'en est pas hyper content. Donc, et on n'a pas le droit sur ces stores de faire la promotion ou de montrer des moyens d'acheter des choses en jeu ou dans les applications des objets numériques. Hein, ça ne s'applique pas aux objets physiques, mais aux objets numériques. On n'a pas le droit de proposer aux utilisateurs d'en acheter par un autre moyen que par l'App Store, parce que par un autre moyen, c'est pas Apple qui contrôle, et donc ils ne touchent pas leurs 30%. C'est normal, évidemment. Si vous proposez à un, par exemple, imaginez, vous êtes une société qui fait des jeux vidéo, vous voulez vendre un truc à 10 euros, 30% de cette somme va à Apple, donc vous ne récupérez que 7 euros. Si vous proposez un autre moyen de paiement, eh ben, vous pouvez dire bah, « je vous le vends à 8 » et Apple ne prend pas de commission là-dessus, donc vous faites plus d'argent et l'utilisateur paye moins parce qu'il paierait 8 euros. Évidemment, les utilisateurs vont immédiatement s'intéresser à ce moyen de paiement. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Epic avec Fortnite. Ils ont mis une mise à jour par l'intérieur de l'app, qui n'est pas passée par le système de review d'Apple, où ils ont proposé aux joueurs d'acheter des V-Bucks par le système d'Apple pour, allez, on va dire 10$, ou par le système d'Epic pour 7$ ou 7€. En disant, nous, on vous fait économiser de l'argent, on ne prend pas d'argent en plus, on fait juste sauter la commission d'Apple, et donc, allez-y, vous pouvez choisir de payer 10€ ou 7€. Alors, évidemment, la réponse d'Apple a été immédiate. Ils ont retiré l'application de leur App Store, parce que, enfin, il ne faut pas déconner, quoi. c'est Apple. Alors, on n'est peut-être pas d'accord avec les 30%, mais évidemment qu'Apple ne peut pas laisser passer ça. Epic, qui avait bien anticipé la chose, enfin évidemment qu'ils allaient se faire retirer, ils ont lancé un procès contre Apple et ils ont envoyé une campagne de communication avec une vidéo qui parodie la vidéo 1984 très connue d'Apple, à l'époque où Apple essayait de prendre des parts de marché à IBM. Pour le coup, Apple, c'était vraiment une petite société dans le monde de l'informatique et IBM, c'était le gros mastodonte qui représentait l'immobilisme de l'industrie. Alors là, disons que Epic qui se met dans les pompes d'Apple de cette manière... Bon, ok, surtout c'était prémédité, c'était anticipé, et puis ils l'ont diffusé dans le jeu en invitant les joueurs à rejoindre le combat contre Apple en utilisant le hashtag FreeFortnite, parce que Epic a été banni de l'App Store. Franchement, moi je trouve ça moyen. Moi je trouve ça, enfin surtout quand on sait que les gens qui jouent à Fortnite, c'est en grande partie des enfants... moi j'adore pas cette idée. Alors qu'ils se battent contre Apple, ok, très bien, qu'ils essayent de faire baisser les 30%, je peux le comprendre. À une certaine époque, ça pouvait se justifier quand ils étaient en train de construire cet écosystème qui n'existait pas. Bon, peut-être qu'aujourd'hui 30% ça fait trop et ça fait un racket comme ils le disent. Moi, ma prédiction, c'est que Apple va finalement, peut-être au bout d'un moment, accepter de faire 15% après X millions de revenus, comme ils le font déjà avec les abonnements. L'abonnement, c'est 30% la première année, et si les gens sont toujours abonnés, ils ne prennent plus que 15% après. Peut-être qu'ils pourraient faire un truc équivalent pour les achats in-app, peut-être. Mais ce que veut, ou en tout cas ce que dit Tim Sweeney, c'est pas juste ça. Ce que dit Tim Sweeney, c'est qu'il veut qu'on soit capable d'installer n'importe quelle application sur les téléphones dont on est propriétaire. Et j'en parlais dans le rendez-vous tech il y a quelques jours, donc je suis désolé de le répéter si vous l'avez déjà écouté. C'est une idée qui est très séduisante, et on se dit, bah oui, c'est mon téléphone, je peux en faire ce que je veux. Mais moi, ça me pose un problème d'imposer aux constructeurs et aux propriétaires d'écosystèmes de dire bah, il faut que tout soit ouvert systématiquement, vous ne pouvez rien laisser fermer. Parce que évidemment, ça arrangerait Epic de pouvoir installer leur Epic Game Store duquel ils ne payent rien à personne comme commission sur iPhone. Évidemment qu'il faudrait, c'est clair. Mais ce n'est pas que l'Epic Game Store qu'on peut installer si c'est ouvert aux quatre vents. C'est tous les malwares de la Terre, c'est tous les programmes malveillants, c'est tous les programmes qui vont aspirer vos données. Enfin, ça devient comme Windows, il faut faire attention à tout, il faut installer des antivirus. Il est souhaitable qu'on ait des plateformes qui puissent avoir plus de contrôle et qui puissent avoir qui puissent contrôler quelles applications sont installées sur votre appareil. Moi, je pense que c'est possible de dire on va avoir certaines plateformes qui vont être plus contrôlées que d'autres. Si on avait des plateformes, uniquement des plateformes qui étaient complètement fermées, ça serait peut-être un problème. Mais il y a eu plein de plateformes qui sont ouvertes. Android, d'ailleurs, même si Epic n'est pas complètement d'accord avec, Android est quand même très ouvert, n'importe qui peut aller installer son store. Mais c'est vrai que le Play Store est dominant, et donc il vaut mieux avoir son application sur le Play Store aussi. Ok, mais bon, ça n'empêche pas. Si vous voulez faire un Play Store super puissant, allez-y. Pardon, si vous voulez un store super puissant, et d'ailleurs, ils l'ont fait chez Epic, et pendant très longtemps et encore aujourd'hui, on peut sideloader le jeu Fortnite sur Android. Alors évidemment, ça veut dire que il faut activer l'option et que le téléphone vous dit « attention, vous risquez d'installer des trucs dangereux ». Ça en rebute peut-être certains, ok, mais le système est quand même beaucoup plus ouvert que sur iPhone. Et même ça, ça ne convient pas à Tim Sweeney. Non, ce qu'il voudrait, lui, c'est pouvoir installer son store à lui et faire ce qu'il veut des téléphones. Et moi, ça ne me semble pas vraiment souhaitable de l'imposer, de dire, bah oui, il faut que tout soit ouvert et qu'il n'y ait aucun contrôle nulle part. Donc, à voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas vraiment de préférence pour Epic ou pour Apple ou pour Google. C'est des sociétés qui se battent pour avoir le plus d'argent possible, et c'est normal, c'est ce qu'elles doivent faire. Mais le fait que Tim Sweeney ait voulu, enfin que Epic ait voulu recruter les joueurs, j'ai trouvé ça, c'est un petit peu comme je sais pas, on va dire un truc un petit peu controversé, mais une société qui est dans des scandales sérieux, je sais pas, comme Blizzard au moment de Blitzchung, ou Quantic Dream quand il y a eu les enquêtes qui sont sorties, ou Ubisoft, c'est comme s'ils allaient communiquer vers les joueurs et combattre, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a donné un petit peu le même type de sentiment, et qu'ils allaient faire un trailer pour dire ouais, nous on a raison, allez nous aider avec des hashtags à expliquer aux journalistes qu'ils ont tort. Ah, évidemment, ça serait beaucoup plus grave dans ces cas où c'était des problèmes graves dont on parlait, mais c'est un petit peu, moi ça me laisse un goût amer dans la bouche, ce truc d'Epic. Et c'est d'autant plus dommage que Tim Sweeney s'est vraiment battu et il est monté au créneau dans d'autres cas où ça aurait pu effectivement devenir problématique, et son Epic Game Store sur PC a amené une concurrence hyper saine pour le marché du PC. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut imposer cette concurrence, enfin, ça dépend de quelle manière, mais pas imposer cette concurrence partout. Et Apple n'est pas une société qui a une part de marché dominante sur mobile, d'aucune manière, sauf peut-être si on dit, alors la part de marché est très faible par rapport à Android, mais peut-être qu'on peut dire oui, mais pour les revenus, ça représente une grosse partie pour les développeurs, donc ils sont obligés d'y être. Ok, peut-être, mais à ce moment, ce que va dire Apple avec raison, je pense, c'est que la raison pour laquelle leurs appareils sont tellement efficaces dans l'expérience utilisateur d'achat, alors qu'ils représentent moins d'appareils que Android, c'est justement parce qu'ils offrent une expérience contrôlée, une expérience sécurisée. Et je suis désolé, c'est un truc qui est tout à fait défendable comme argument. Donc, leur imposer de ne plus pouvoir sécuriser leur expérience, ça ne serait pas raisonnable. Mais bon, comme je le disais, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver un accord sur 15% au lieu de 30% au bout d'une certaine somme de revenus. On verra, on suivra ça de toute façon. À ce stade, Apple a carrément banni Epic le compte développeur Epic. Ils ont fermé leur compte développeur, ce qui veut dire que même l'Unreal Engine d'Epic n'est plus accessible, ou en tout cas les mises à jour seront plus accessibles. Donc c'est problématique pour tous les développeurs qui utilisent l'Unreal Engine sur les produits Apple. Ceci dit, le jeu vidéo sur Mac, disons que l'Unreal Engine, c'est un peu moins mobile que les autres, mais quand même, bon, Apple n'est pas vraiment au top au niveau du jeu vidéo. C'est plutôt Unity, on va dire, sur mobile. Mais bref, c'est quand même un problème. Apple a dit, si vous voulez revenir à réavoir votre compte développeur, c'est très simple. Proposez une mise à jour à Fortnite qui enlève votre moyen de paiement, et respectez les règles auxquelles vous avez donné votre accord quand vous avez passé un contrat de développeur sur l'App Store. Bon, à voir. Ensuite, Epic est en train d'essayer de recruter Spotify et d'autres qui se battent contre le monopole d'Apple. Il y a plein de raisons pour lesquelles le monopole est scruté, ou ce prétendu monopole qui est peut-être un monopole, ça serait au juge d'en décider. Et peut-être que ça va aller très loin dans les décisions de justice. Hein. Ça pourrait, imaginons, aller jusqu'à la Cour suprême américaine, c'est possible. On verra. Bon allez, on va conclure avec plein de petites news. Baldur's Gate 3 vient d'être annoncé comme Early Access le 30 septembre. Alors c'est pas forcément mon trip, mais Baldur's Gate, ça donne des frémissements à de nombreux joueurs, donc je voulais le mentionner. EA Play, c'est le nouveau nom du EA Access et Origin Access, donc le système d'abonnement pour EA, il a un nouveau nom. Il est disponible sur Steam également, sur PlayStation, sur Xbox, donc c'est vraiment move intéressant de la part d'EA d'être disponible partout et de s'appeler EA Play, ça consolide tout ça, c'est très bien, on n'a plus EA Access, EA Origin Access, machin, bon, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je me demande s'il n'y a pas Origin Access premier, toujours, ou peut-être que c'est EA Play premier qui est uniquement disponible sur PC. Epic Games, encore eux, ils ont ajouté le support des mods, il était temps, ils continuent à améliorer leur store. Splinter Cell et Beyond Good and Evil vont être adaptés sur Netflix. Alors Splinter Cell en série animée et Beyond Good and Evil en film, c'est plutôt intéressant hein, tout ça, de la part de Ubisoft, qui d'ailleurs a également expliqué qu'il n'allait pas monter le prix des jeux Next Gen pour le moment. À mon avis, ça va arriver l'année prochaine, mais pour le moment, c'est pas au programme. Donc, on parlait de l'augmentation du prix des jeux sur Next Gen il y a quelques temps. Bah, Ubisoft n'en fera pas partie, c'est plutôt pas mal. Le jeu de Rocksteady, qui était à l'origine des Batman Arkham, est un jeu sans doute Suicide Squad, enfin, qui est un jeu Suicide Squad. Il va être présenté dans quelques jours, là, au DC FanDome. Il y a un gros événement d'ici et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très 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 curieux de voir ce que peut donner un jeu Suicide Squad avec plein de persos développé par Rocksteady, dont j'adore les Batman Arkham. Donc ça à voir. Et il y a aussi un jeu Batman Arkham, je sais plus le nom du développeur, je vais dire une connerie, c'est pas Vicarious Visions, je sais plus, non, sans doute pas. Mais il va aussi être présenté le prochain Batman Arkham à la DC FanDome, donc moi j'attends de voir ça avec impatience. Un petit mot quand même pour dire que le prochain perso de Dragon Ball FighterZ, c'est Tortue Géniale. Donc ça me fait forcément marrer. Le jeu continue à faire son petit bonhomme de chemin. Le producteur de Street Fighter quitte Capcom, Yoshihori Ono, qui était à la tête de Street Fighter depuis Street Fighter 4, et qui était un personnage vraiment à lui-même, que j'adorais. Bon, moi, je suis fan de jeux de combat, donc ça m'a fait un petit quelque chose d'apprendre qu'il quittait la boîte. Il semblerait que Skyward Sword puisse arriver en remake sur Switch. Ça pourrait être Skyward Sword en plus des jeux Mario 3D qui doivent toujours arriver en remake avec le Mario 3D World de la Wii U pour les 35 ans de Mario, qui devrait être annoncé là bientôt, on y arrive, hein, donc peut-être Skyward Sword aussi. Et entre parenthèses, Nintendo, des ventes records avec 20 millions de Animal Crossing. Bon, ok, ils écrasent un petit peu tout le monde. Et enfin, juste un petit truc pour parler de streaming. Ninja est revenu sur Twitch. Il avait streamé un petit peu sur YouTube et il est revenu sur Twitch aussi. Docteur Disrespect, il s'est fait bannir de Twitch, on ne sait toujours pas pourquoi. Eh ben, il est allé sur YouTube, lui. Et Shroud, qui avait quitté Mixer, évidemment, puisque ça avait fermé, est également revenu sur Twitch. Et il a fait, je ne sais plus, 500... Non, je ne veux pas dire de bêtises, c'était 500 000, pas 500 000 viewers. Si, c'était 500 000 viewers pendant son stream. C'était assez impressionnant. Et même lui, il était impressionné. Donc, bon, le stream se porte bien. Et voilà, je crois qu'on a résumé l'été. Hein. C'était plutôt long, mais plutôt bon, je dirais. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et ben, on va pouvoir reprendre le cours normal du rendez-vous jeu à partir de la semaine prochaine. N'oubliez pas que je suis NotPatrick, que l'épisode est disponible sur frenchspin.fr si vous voulez commenter tout ce que j'ai dit. NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Également notepatrick.com si vous voulez vous abonner à d'autres émissions, hein, c'est possible également. Et patreon.com/rdvjeux si vous appréciez l'émission. Le lien est également dans les notes. Et c'est le moyen de soutenir l'émission. Et j'espère que vous l'aimez et que vous vous dites ça vaut peut-être un petit dollar, un petit euro. On est passé en euros d'ailleurs sur Patreon. Un petit euro par épisode plus la TVA. C'est compliqué avec la TVA sur Patreon, mais ça monte un petit peu plus qu'un euro. Mais si vous appréciez l'émission, ben, une petite somme. Et en plus, vous aurez des bonus super sympas. J'apprécie énormément le soutien que vous me témoignez et que certains d'entre vous me témoignent déjà, et peut-être que certains d'entre vous, en rentrant chez vous à la maison, vous direz je mets les clés dans le bol et ça fait cling, et là je me dis ah ouais, faut que j'aille voir patreon.com/rdvjeux, moyen mnémotechnique facile à retenir. Bon, je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec, normalement, toutes les annonces du DC Fandom et de la Gamescom et peut-être d'autres choses. On a déjà très très hâte. Ciao à tous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.